Les colloques du Collège de France.
Chers et chers collègues, participants et auditeurs, donc nous allons reprendre avec une nouvelle session, juste après le repas. On accueille en premier lieu Denis Lacambre, donc de l'Université de Lille, qui va nous parler sur les débuts du règne de Samsi-Adou et l'instauration du royaume de Haute-Mésopotamie, et c'est de chronologie. Merci.
Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord remercier Dominique Charpin, responsable du projet PCEHM, pour son invitation ici. J'ai préparé un PowerPoint en anglais, mais je parlerai en français. Donc, on sait que le règne de Samsi-Adou a marqué durablement la fin du 19e siècle, le début du 18e siècle avant Jésus-Christ, dans la région de la Haute Mésopotamie. Il a donné lieu à un certain nombre de travaux, donc je rappellerai notamment tous les travaux de Nelle Ziegler, je citerai un des derniers parus dans Archibab 6, qui était d'ailleurs un des publications au sein du programme PCEHM. Je vais vous parler aujourd'hui plus spécifiquement d'Achour, et c'est pour ça que je vous rappelle qu'il y a eu le cours de Dominique Charpin cette année qui a porté sur Achour et Kalatoum, ici au Collège de France. Donc si la période a suivi la prise de Marie a livré une abondante documentation qui vient notamment donc d'un grand nombre de sites comme Marie, Toutoul, Chagar Bazar, donc l'ancienne Achnakoum, entre autres, la période antérieure est très mal connue. Quelques documents tout à fait particuliers comme les chroniques éponymales de Marie, la liste éponymale G de Kultepe ou quelques inscriptions royales d'Achour nous documentent la présence de Samsi-Adou dans le nord de la Mésopotamie. Et c'est aussi, d'un point de vue pour les tablettes administratives, on a seulement 7 textes pour l'instant. Un qui vient d'Achour, un 1574, dont je vous reparlerai, deux de Tel Taïa et 4 de Shubat Enlil. Dans la suite de mon exposé, je m'appuierai sur l'étude qui est parue récemment dans Orbis Biblicus et Orientalis, la série Archaeologica 43, où j'ai proposé une reconstitution du règne de Samsi-Adou, qui aurait duré 70 ans, et donc la reconstitution de la KULG, donc, qui fait désormais avec un nouveau sigle RKELG. Bon, ça fait partie de la discipline, j'espère que vous y retrouverez. Ces textes, donc, en fait, ne nous permettent pas de remonter aussi haut qu'on le souhaiterait, et donc tous les débuts du règne de Samsi-Adou sont en fait très peu connus. On connaît en fait les 16 dernières années du règne de Samsi-Adou, mais les 54 années précédentes sont très mal connues, à part par ces textes exceptionnels que sont les chroniques éponymales de Marie. Ces textes, donc, le plus ancien serait peut-être le texte d'Achour et un autre texte de Tel Leilan, mais comme c'est un éponyme qui s'appelle Achour Taklakou et qu'il y en a 4, en fait, je me suis aperçu qu'on pouvait aussi le dater beaucoup plus récemment, donc juste avant la prise de Marie, et donc le texte le plus ancien qu'on aurait pour l'instant d'un point de vue administratif, ce serait un texte daté d'Adoubani qui aurait été retrouvé à Tel Leilan, l'ancienne Shubat Enlil. Je vais maintenant me tourner vers le texte d'Achour. Alors, ce texte avait été publié dans les mélanges Charpin, et il m'avait attiré parce que il comportait un certain nombre de traits qui sont pas du tout assyriens, c'est-à-dire notamment le mois de Doumouzi, qui est un mois du calendrier de Samsi-Adou, on y reviendra. Alors, il était malheureusement, comme vous le voyez, très très fragmentaire, mais il comportait aussi d'autres traits qui sont absolument pas usuel dans la documentation paléo-assyrienne, c'est-à-dire l'utilisation de la mesure Anché, donc l'année, qui fait partie du système nord mésopotamien, l'utilisation de la mesure Kinaté, ou la notation mathématique de volume, un bariga plus 6 têtes de clou, qui indique en fait 60 litres, 60 cas, et qu'on connaît bien par la documentation de Chagar Bazar, donc l'antique Achnakoum, à l'époque de Samsi-Adou. Et je peux désormais vous proposer d'ajouter à ces documentations originaires d'Achour un nouveau texte, A729, qui a été publié en son temps par Weissel Dombals, et qui m'a frappé par, en fait, le titre. Puisque le titre était tout à fait énigmatique pour moi, et ça s'appelait une tablette, An Unusual Chagar Bazar Tablet Found in Ashur. C'est totalement impossible, et qui avait fait par la suite l'objet d'un réexamen de Wu Yong. Cette tablette se caractérisait, je vais vous montrer tout de suite le document, par une mise en page tout à fait caractéristique, alors des textes administratifs des archives de Marie ou de l'époque de Samsiadou, mais qui n'est pas du tout celle qu'on connaît pour les textes paléo-assyriens. L'utilisation à nouveau d'un mois du calendrier de Samsiadou et l'utilisation d'une mesure qui est plutôt originaire de l'Ouest, la mesure Gal, qui vaut 10 000. Donc ce texte, comme je vous l'ai dit, avait été donc publié par Dombas, qui avait noté effectivement qu'il n'avait pas des caractéristiques assyriennes prononcées, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui se demandait s'il n'était pas originaire de Chagar Bazar. Comme vous voyez, la distance entre Ashur et Chagar Bazar, sachant que les deux sites ont fait l'objet de fouilles régulières, hein, ça paraissait peu probable, même si on sait, bien entendu, que des textes circulent et que des archives peuvent être déplacées. Il est donc plus raisonnable de penser que ce texte, dont on connaît la localisation lors des découvertes par les fouilleurs allemands, hein, provient bien d'Ashur et a des caractéristiques effectivement inhabituelles pour la documentation paléo-assyrienne, mais qui s'expliquent très bien si on le date de l'époque de Samsiadou. Donc ce texte, le voici, c'est un texte donc relativement fragmentaire, avec en fait un texte de livraison de briques. Je vais vous donner la traduction tout de suite. Hein, donc on a en fait des quantités de briques suivies d'un nom propre, un total général, un total par face très certainement, c'est cassé malheureusement, et un total général qui nous donne le chiffre de 28 340 briques. Donc au mois de Makranoum, donc qui est un mois, hein, le 9e mois du calendrier de Samsiadou, et pas du tout le calendrier utilisé par les marchands assyriens, le calendrier d'Ashur. Et d'autre part, on a un certain nombre de noms propres sur lesquels je vais revenir, et un problème avec la lecture de l'éponyme. Cette lecture, je pense l'avoir résolue, je vais y revenir. Tout d'abord, deux propositions avaient été faites par l'éditeur du texte qui avait proposé de lire Yari Lugal, et une autre par le professeur Wu Yong, qui avait proposé de lire Erichum. C'était ça qui m'avait intéressé, parce que, en fait, l'éponyme Erichum, si on le met dans la chronologie de Samsiadou, on remonte bien avant la liste royale assyrienne, où il est censé s'être emparé d'Ashur. Donc j'étais très content de mon scoop, mais je me suis aperçu qu'en fait, il faut toujours retourner à la philologie, et que c'est partiellement Weissel Dombas qui avait raison. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, Wu Yong avait hésité entre le signe Shum et Lugal, proposé, et grâce donc à la réunion de tous les signes par Weissel Dombas et maintenant grâce à un parallèle, alors je suis désolé, ça, l'image n'est pas aussi bonne que je souhaiterais, un parallèle qui a été mentionné par Venhoff d'une tablette qui provient de Kultepe et qui est datée par un éponyme qui s'appelle Atal Lugal, Atal Shari, fils de Ilianoum, on peut très certainement, avec certitude, lire en fait cette tablette comme étant une tablette datée de l'éponyme Atal Shari. Voilà, et en fait, l'erreur qu'a fait, alors, qu'on voyait très bien originellement, mais qu'on voit moins bien, ici, en fait, il avait vu deux des têtes de. En fait, le signe mou à l'époque comporte en fait six têtes de clous, hein, et il avait pris ceci pour, en fait, le début du signe I, sachant que, ou le IA, sachant que la tablette est cassée très certainement à cet endroit-là. Donc ça s'explique très bien. Et là, je vous ai pris un exemple qui est parfaitement daté, hein, d'un éponyme, donc qui est contemporain globalement de la rédaction de la tablette d'Ashur. Quand on se tourne vers la KULG, justement, cet éponyme avait été lu originellement par Gunbate, hein, mais corrigé par la suite par Barjamovic, Hertel et Larsen. Et semble-t-il, effectivement, le manuscrit est très mal écrit. Hein, et Venhoff avait cependant, on le voit bien dans sa nouvelle édition des chroniques éponymales, avait quand même mis un point d'exclamation, se demandant si c'était vraiment raisonnable de lire Arushari. Et il est à peu près sûr maintenant, grâce au parallèle et grâce à ce nouvel exemple, que la KELG, la ligne 67, doit être lue à Tal Shari, comme l'avait proposé donc Gunbate. Alors le nom est intéressant puisque c'est un nom ourite, hein, qui a été analysé par Richter, et ça avait déjà donc aussi été noté par Venhoff, qui avait bien noté que, ben, à cette époque, du carum 1B, hein, il y a bien des marchands qui peuvent porter des noms hourrites, ce qui n'est pas très étonnant. Ce qui nous donne maintenant la chronologie suivante. Hein, donc, quand je vous avais dit que Erichu m'aurait intéressé, c'est qu'évidemment, si on avait placé ce texte aussi haut, eh bien, on était même avant la conquête des Kalatoum, ça aurait tout remis à plat. Mais évidemment, il faut toujours se méfier des trop belles, des trop beaux scoops. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus prosaïquement un texte qui date juste avant la conquête de Marie. Hein, et c'est pour ça que le texte que j'avais publié dans les mélanges, que je vais republier, pardon, dans les mélanges Charpin, je me demande si on peut pas, en fait, le dater plutôt de l'Achour Taklakou qui se trouve ici, c'est-à-dire aussi une période beaucoup plus récente. On va voir pourquoi. Notamment en se tournant maintenant vers les individus qui sont mentionnés dans le texte. Ce ne sont pas des noms très assyriens. Hein. Alors, il est écrit Tinérar, c'est peut-être Yann Tinérar, donc il y a beaucoup d'homonymes, je ne suis pas fait d'enquête sur le sujet. Par contre, Bali Errar est très intéressant parce que c'est aussi un nom amorite, mais on voit bien qu'il est mentionné, notamment dans ARM 1342, comme quelqu'un, alors on ne connaît pas son titre, mais comme quelqu'un qui a assez de pouvoir pour empêcher un administrateur de Marie qui s'appelle Yawilia, d'accéder à ressources en eau. Hein, et il faut que Yasmaradou lui-même fasse porter une tablette à Bali Errar pour expliquer que Yawilia a bien le droit d'irriguer ses champs. Donc c'est très certainement un personnage très important. Je propose éventuellement de les identifier parce que les deux autres personnages qui sont mentionnés dans la tablette, on a aussi des liens avec la documentation de Marie, grâce notamment à l'important travail qu'avait fait Pierre Villard sur les administrateurs de l'époque de Yasmaradou, hein, notamment Ralia, alors qui est bien connu comme étant un administrateur de Shubat Enlil, qui était aussi mentionné dans les archives de Chagar Bazar, donc je le connaissais déjà. C'était aussi, et qu'on retrouve dans l'autre texte à 1574, c'était cassé, mais comme maintenant on a une nouvelle attestation, je me demande s'il n'est donc pas déjà en activité à Achour dans ces périodes anciennes. Et un autre cas qui est Shamash Magui, alors c'est un nom très commun, évidemment, on se dit qu'on ne peut pas en faire grand-chose, et je m'étais dit, bon, on ne va pas pour faire grand-chose, et heureusement, grâce à Pierre Villard, on voit qu'il y a un Shamash Magui qui est très bien attesté et qui serait en charge de Dour Yasmaradou par la suite, et j'ai tendance à penser que c'est peut-être aussi le même personnage. Et on aurait en fait un phénomène très intéressant, c'est-à-dire des hauts fonctionnaires qui ont été éventuellement proches du roi Samsiadou, et qui par la suite, ayant fait leur preuve auprès du roi, ont été envoyés dans différents postes. Hein, on a le même cas avec Itourazou à Marie, par exemple, à l'époque de Timbrilim. Et donc, il aurait donc moins d'une vingtaine d'années de carrière par la suite, si on prend les dates que je vous propose. Quand on se tourne maintenant vers le texte, qui est un texte de livraison de briques, c'est pas un texte atypique pour l'époque de Samsiadou, puisqu'on en connaît un petit dossier qui provient de Tel Rima, de trois textes, qui ont été retrouvés en fait dans les fondations du palais, et qui attestent aussi de la livraison de briques. Alors, qui sont datés, donc, l'éponyme est cassé, mais les possibilités sont restreintes au vu du premier signe conservé, c'est soit Rishamash, soit Rigmanum. Hein, donc là, on est en fait bien après la conquête de Marie, mais ça montre en fait tous ces textes, je vais vous montrer, puisqu'on connaît l'origine maintenant du texte. Du texte qui a été découvert à Achour, les indications montrent qu'il a été trouvé en fait dans le temple d'Achour, hein, donc qui était un complexe monumental construit par Samsiadou, qui faisait donc, je vous ai mis par comparaison, plus de 100 mètres par 220 mètres de superficie, et qui donc Notre-Dame de Paris ne fait que 128 mètres par 48, hein, qu'on peut voir du cinquième étage ici. Hein, donc pour vous donner un peu une idée de la taille de ce complexe, et ce qui est intéressant, c'est que donc on a la localisation, et c'est dans le carré IB45, c'est-à-dire ici dans cette zone-là, hein, du temple d'Achour. Et donc je serais quand même tenté, au vu des nombreuses briques qui ont été découvertes, qui indiquent que Samsiadou a reconstruit le temple d'Achour, hein, donc l'inscription Rima A 03911 par exemple, ou un peu plus développée celle-ci où il indique aussi sa filiation, donc fils d'Ila Kapkabou. Je serais tenté, hein, grâce aux dimensions qu'on a de ces briques, hein, qui font entre 35 x 35 par 6,5, de me demander si on n'a pas donc un texte qui est lié à la reconstruction du temple à un moment, hein, vu la la superficie du temple et vu le nombre de briques qu'il a fallu employer, on n'aurait qu'une toute petite partie des briques qui auraient été livrées pour reconstruire ce temple d'Achour par Samsiadou. J'ai fait des petits calculs, alors j'espère que je ne me suis pas trompé, mais en gros, avec 28 340 briques, si vous voulez faire un mètre, mur d'à peu près 4 mètres sur 3 mètres de large, c'est-à-dire sur 8 briques et demie de large, vous ne pouvez faire que 18 50 mètres. Donc il a fallu évidemment des centaines, enfin des milliers et des milliers de briques, des dizaines de milliers de briques pour reconstruire ce temple d'Achour. Donc tout ça m'incite à y voir donc, avec ce texte, un nouveau texte administratif qui montrerait la présence de Samsiadou à Achour en lien avec tout son programme de construction. Où il n'y a pas donc seulement Achour, on sait que Achour-Bat-Enlil, il a eu un rôle très important à Tel Rima et ailleurs, où il est l'initiateur d'un certain nombre de constructions, de reconstructions de palais ou de temples. On sait qu'Achour a eu un rôle très important, puisque pour l'instant l'unique empreinte d'Osso qu'on connaît de lui, c'est une empreinte où la légende indique qu'il est effectivement bien aimé du dieu Achour, vicaire du dieu Achour, fils d'Ila Kapkabou. Donc c'est vraiment la place d'Achour dans son règne ne doit pas être sous-estimée, puisque c'est une enveloppe qui est beaucoup plus récente, puisqu'elle a été retrouvée dans les archives de Marie, donc on est bien plus tard. Mais très certainement, ça marque cet attachement à Achour, et pour l'instant, les autres empreintes qu'on avait pensé être identifiées à d'autres variantes du sceau de Samsiadou, puisqu'on sait que les hauts fonctionnaires, Dominique Charpin l'a bien montré, peuvent avoir plusieurs sceaux. Pour l'instant, ces sceaux, en fait, se sont révélés être des sceaux de fonctionnaires de Samsiadou, qui glorifiaient le roi dans le début de leur légende. Et donc, on pourrait désormais le dater avec certitude, c'est-à-dire de l'éponyme Atal-Shari, ce qui permettrait aussi de confirmer la lecture qu'avait proposée Gunbateu de la ligne 67 de la KELG. Elle montrera aussi donc ce programme avec ses livraisons de dizaines de milliers de briques, ce programme de construction qui s'est déroulé à Achour et dont les briques inscrites montrent bien la réalité. Elle nous permettrait aussi d'avoir des nouvelles informations sur les carrières des fonctionnaires de Samsiadou, qui peut-être, si mon hypothèse est bonne, parce qu'évidemment les noms que je vous ai cités, il peut y avoir des homonymes, bien entendu, j'en suis bien conscient, mais néanmoins, c'est un principe qu'on connaît bien, c'est-à-dire on fait ses preuves auprès du roi et par la suite, on est envoyé dans des postes éventuellement plus difficiles, des endroits plus difficiles à gérer. De même, ça montre surtout aussi l'absence de texte à Achour dans cette première moitié du deuxième millénaire qui concerne Samsiadou et d'ailleurs par la suite la documentation globalement, puisqu'on n'a que 27 documents et 30 autres inscriptions. Évidemment, on songe à la masse de documents de QLTP. On a vraiment un déséquilibre total avec plus de 22 000 documents qui ont été retrouvés à QLTP pour cette période paléo-assyrienne, dont Samsiadou, qui concerne aussi dans la fin de la période, concerne Samsiadou. Donc ça a été l'objet récemment d'un article de Cécile Michel sur cette question de tous les manques qu'il faut prendre en compte quand on étudie ces archives. Et il faut bien avoir ça en tête parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on connaît les 16 dernières années de Samsiadou, de son fils Yasmaradou et dans une moindre mesure d'Ishmedagan. Tant qu'on n'aura pas fouillé Kalatoum, il faudra encore attendre des nouvelles informations, puisque les Ziegler a pu l'identifier avec Tel Ruweish, avec une grande certitude. Et donc, pour l'instant, notre seul espoir d'avoir des nouveaux textes directement de cette ville d'Achour, qui a été aussi importante pour Samsiadou, c'est les fouilles archéologiques qu'ont repris, les fouilles allemandes qu'ont repris depuis 2023. Et je vous remercie de votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.